Le journal était présenté par Mathieu Laurent, que l'on retrouve à 9h. Bonjour à toutes et à tous.
Il me suffit de te voir. Je te regarde et je vois immédiatement un journaliste qui va me dire qu'il a une intuition.
J'ai vérifié certains
points. Veux-tu savoir ce que je pense des journalistes qui ont des intuitions?
This is Bob Woodward of the Washington Post.
New York Herald Tribune.
Nous avons quelques informations sur ce sujet par d'autres sources. Et bien sûr, on veut faire des recoupements.
This is terrific stuff. Where did you get it?
Ce type est bon. Il est aussi bon journaliste que tous ceux avec qui j'ai travaillé.
Le secret des sources.
Frédéric Barrère.
Bienvenue dans le secret des sources et les coulisses de l'information. C'est une affaire mondiale. L'événement a eu des répercussions partout dans le monde. L'attentat contre Charlie Hebdo, mais aussi les caricatures et plus particulièrement la une de Charlie, le numéro des survivants montrant le prophète versant une larme avec une pancarte « Je suis Charlie » sous l'inscription « Tout est pardonné ». Manifestation de haine et de colère dans le monde musulman, du Maroc à l'Iran, hier encore, et au Pakistan. Au Niger, 45 églises brûlées, 5 morts, plus de 100 blessés. Grozny en Tchétchénie, devenue, nous dit l'agence France Presse, capitale mondiale de la contestation anti-Charlie. Des caricatures qui ont embarrassé les médias étrangers. Charlie Hebdo, comment la presse étrangère a-t-elle parlé des caricatures? C'est notre sujet ce matin dans Le Secret des Sources sur France Culture avec nos invités. En studio, Caroline Forest, éditorialiste sur France Culture, spécialiste des intégrismes et ancienne journaliste à Charlie Hebdo. Bonjour.
Bonjour.
Scott Sayard, journaliste américain. Vous travaillez, Scott, notamment pour The Atlantic. Bonjour.
Bonjour.
Avec nous également Francis Patindé, journaliste spécialiste de l'Afrique, mais aussi maître de conférences à Sciences Po Paris. Bonjour.
Bonjour.
Et nous rejoindrons en cours d'émission Franck Madvon, notre correspondant à Londres. Nos deux regards extérieurs de l'émission aujourd'hui, Jean-Marie Charon, sociologue et spécialiste des médias, et Thibaut Henton, notre chroniqueur connecté, images et web. Bonjour à tous les deux.
Bonjour à tous.
Dans les coulisses de l'émission, Vincent Abouchard, Mathias Mégy, avec cette semaine, aux manettes en régie, Jacques Hubert. Le clin d'œil de la semaine sera signé Yacine Bouzard en fin d'émission. Vos commentaires, vos réactions sont les bienvenus sur notre site franceculture.fr. N'hésitez pas à nous écrire, vous êtes chez vous sur France Culture et dans le secret des sources.
Tal y como prometieron los supervivientes, Charlie Hebdo sale mañana a los kioscos.
Time now to bring in our global affairs analyst. Bobby, I want to first get your reaction to this new cover that Charlie Hebdo...
...warum die Zeitschrift Charlie Hebdo nicht besser geschützt wurde.
We're not showing the cover, in case some viewers are offended.
...die Zeitschrift, die dänischen Mohammed-Karikaturen.
CNN has chosen not to show any depictions of the prophet.
Yo soy Charlie y el titular... Todo está perdonado.
Le secret des sources.
Et il y a toujours des manifestations hier en Iran notamment. Est-ce que vous êtes surpris par cette vague de réactions dans le monde depuis plus d'une semaine, Francis Patindé?
Non, pas du tout. Il y a eu en fait deux périodes. Il y a eu la période jusqu'à la manifestation à Paris, où je pense que les médias en Afrique et l'opinion publique aussi ont soutenu la liberté, la défense de la liberté de la presse et la lutte contre le terrorisme. Vous savez qu'il y a toute une frange de l'Afrique qui connaît depuis ces deux dernières années une recrudescence du djihadisme. Et puis il y a eu la fameuse une de Charlie Hebdo.
Le numéro des survivants.
Voilà, le numéro des survivants. Et puis, il y a eu quelques petits problèmes. Et quand on dit l'Afrique, c'est quand même pas les 54 pays d'Afrique, mais c'est 3 ou 4 pays où, à majorité musulmane, où bon, les gens ont protesté, ont trouvé que c'était...
Avec beaucoup de violence au Niger.
Beaucoup de violence. Il y a eu 45 donc, églises et temples qui, donc, protestants qui ont été incendiés. Il y a eu Orange, le groupe Orange de téléphonie cellulaire français qui a été brûlé. Le centre culturel français aussi. Il y a eu les bars. Ça, on a oublié souvent de le dire. Donc, ils ont ciblé les bars qui étaient des symboles soi-disant de décadence. Et donc voilà, ce qui est inquiétant, c'est que la classe politique traditionnelle parlementaire, l'opposition parlementaire, tout comme les médias, n'aient pas dénoncé ce genre de fait. C'est-à-dire qu'on a fait cause pour ça sans le dire, c'est vrai, mais c'est inacceptable de ce point de vue-là.
Scott Sayer, les Américains sont toujours traumatisés par le 11 septembre. Quelle image ont les Américains de l'islam à travers les médias ?
On a l'image surtout d'un islam qui se pratique en dehors des États-Unis. Il faut savoir qu'il n'y a que à peu près 1 million de musulmans aux États-Unis, ce qui représente 1/300 de la population. Et donc l'islam pratiqué par des concitoyens n'est pas très connu. L'image de l'islam, c'est surtout les musulmans du Proche-Orient, et du Maghreb.
C'est lointain, c'est ça, pour les
Américains. Exactement ça. Malheureusement, c'est très lié à la violence. Justement, la violence justifiant la couverture souvent. Il faut dire que le Proche-Orient est quand même une zone géographique plus violente que d'autres. Donc malheureusement, c'est surtout un lien entre violence et islam qui se fait aux États-Unis.
Alors on va s'intéresser à nos amis anglais. Caroline Forest, vous étiez invitée par la chaîne de télé Sky News le 14 janvier dernier, donc le jour de l'apparition du numéro des survivants de Charlie Hebdo. Eh bien, on écoute votre interview, en tout cas un passage.
It's this which is completely crazy that in UK you cannot show a simple drawing as that.
With Mohammed at Sky News, we've chosen not to show that cover, so we would appreciate Caroline not showing that. I do apologise for any of our viewers who may have been offended by that. As you know, here in Sky News, we've taken the editorial decision not to feature the cover of Charlie Hebdo.
Bien, bravo Caroline pour votre anglais, mais c'est assez rude. Hein. On vous coupe, vous disparaissez l'image, on vous coupe le micro. Alors on va expliquer Caroline Forest pour les auditeurs. Vous tentez de montrer la une de Charlie à la caméra, c'est ça ?
Oui, et au début, ils se mettent à zoomer au-dessus de la couverture pour pas qu'on puisse voir le dessin de Luz. Et puis après, ce que vous avez entendu, c'est-à-dire que la présentatrice ne s'excuse même pas auprès de moi de m'avoir juste censuré froidement pour avoir montré la une de mes camarades survivants, les autres ayant été assassinés.
Oui, elle vous dit « on apprécierait que vous ne montriez pas cette une, Caroline ».
Et elle s'excuse auprès de ceux qui auraient pu être offensés par le fait d'avoir montré cette une de Charlie Hebdo, dont je précise que quand même un certain nombre de confrères, beaucoup de confrères anglo-saxons, anglais et américains, nous harcelaient depuis des jours pour la voir. C'est-à-dire que c'était tous les jours, c'est quoi la une de Charlie Hebdo, c'est quoi ? Et quand la une est parue, ils ne l'ont pas montré.
Alors après une telle séquence, je sais pas, on a le souffle coupé, on est en colère, on vous entend pas crier puisque le micro est coupé, mais
je suis assez contente que le son. J'avoue que j'ai pas mal crié sur les pauvres caméramans qui étaient sur place et qui étaient effondrés parce qu'il y avait un journaliste. J'ai reçu beaucoup d'équipes de CNN et aussi de Sky News et d'autres chaînes américaines et ils étaient un peu consternés et embarrassés par les consignes de leur direction parce que étant à Paris, suivant l'actualité et évidemment tout simplement au-delà du débat de est-ce que Charlie Hebdo a bon goût, est-ce que Charlie Hebdo doit se taire quand on lui tire dessus, simplement d'un point de vue journalistique, ne pas montrer cette une, c'est anti-journalistique. C'est le cœur de l'information, cette une est au cœur de l'information mondiale. Donc ne pas la montrer, c'est vraiment prendre sur soi. Il y a plein de raisons d'ailleurs qui entrent en jeu, on va en discuter, il y a un fossé culturel inouï. Et moi, j'ai souvent remarqué, déjà au moment de l'affaire des caricatures de 2006, qu'il était beaucoup plus facile d'avoir une discussion sur cette question-là avec des journalistes turcs, avec des journalistes arabes, qu'avec des journalistes anglais et américains. Il nous manque réellement, souvent, vraiment une histoire commune sur cette question de laïcité, de liberté d'expression. Mais il y a d'autres critères. Il y a des chaînes qui, pour des raisons d'assurance, ne veulent pas faire prendre le moindre risque à leurs salariés, et aussi parce qu'ils ont peur, non pas tellement seulement des terroristes, mais simplement de ligues de vertu, de ligues intégristes qui pourraient faire des campagnes contre eux.
Vous aviez prévenu Sky, enfin vous doutiez que ça se passerait mal, non ? Vous saviez que Sky...
J'avais pas prévenu Sky, mais j'avais un peu fait le même coup à CNN en direct quelques jours plus tôt, pas avec la une de Luz, ouais. Avec celle de Cabu de 2006, où on voyait Mahomet effondré par les intégristes qui disaient « qu'est-ce que c'est dur d'être aimé par des cons ?» Cette une étant la raison d'être invoquée par les terroristes pour leurs crimes. Et donc je trouvais inouï, là aussi, que les gens ne puissent pas la voir. Et donc, effectivement, quand je suis interviewée sur des chaînes anglaises ou américaines, en différé, je la montre. D'ailleurs, quand je l'ai montré en différé, ils l'ont flouté. Mm-hmm. Et quand je la montre en direct, soit ils me coupent, soit ils font un plan large.
Caroline, vous parlez de Fox News, de CNN. Ça vous étonne, Scott Sayer, que On coupe les caricatures, qu'on floute les caricatures sur les télés aux États-Unis.
Non, enfin, je précise que
c'est pas unanime hein, aux États-Unis. C'est certains montrent.
Ouais. Il y a une vraie divergence, il y a un vrai débat en fait aux États-Unis aujourd'hui sur ces questions. Justement, CNN et Fox ont pris des décisions inverses l'un de l'autre. CNN ayant refusé de diffuser et Fox ayant diffusé avec beaucoup de satisfaction. Je pense que, en gros, les règles du jeu sont peut-être différentes, mais moins de règles, je parlerai plutôt de notions de réflexion, de ce qu'on veut montrer et de ce qu'on ne trouve pas important de montrer. Effectivement, les questions soulevées par cette une, pour les rédactions américaines, c'était d'abord une question de ce qu'on appelle en anglais « news value », c'est-à-dire la valeur de l'actualité. Et donc je pense que tout le monde s'accordait pour dire qu'effectivement, il y avait une très grande valeur dans cette actualité et qu'il importait de montrer ces images. Mais après, il y a une réflexion différente qui se fait au sein de toutes les rédactions, qui est sur la notion d'offense, justement. C'est sûrement lié à l'histoire plutôt puritain, enfin protestant en tout cas, mais puritain pour certains, des États-Unis, où la morale joue un rôle assez important. Il faut noter que le New York Times, par exemple, qui a décidé de ne pas publier, et qui a été très critiqué d'ailleurs, et soutenu par d'autres coins, mais le New York Times a un slogan, c'est « toute l'actualité qui se vaut d'être imprimée ». C'est une notion de morale. Et donc cette notion de ce qui est bon ou pas bon à montrer, pour les mœurs tout simplement, est ancrée dans la presse américaine. Après, je pense que c'est très facile de faire le procès à la presse américaine, notamment pour un manque de défense de liberté d'expression. J'ai envie de dire qu'aux États-Unis, la liberté d'expression est beaucoup plus fortement protégée qu'en France. Faut reconnaître qu'aux États-Unis, vous avez le droit de dire ce que vous voulez. Après, c'est vrai que les journaux ont le sentiment d'avoir une responsabilité morale envers le lectorat, plus que ce qu'on peut retrouver en France. À titre personnel, je défends pas le fait de ne pas le publier ou de publier. Je pense effectivement qu'aujourd'hui, c'est un peu absurde, à l'heure d'Internet, de ne pas publier quelque chose qui va être facilement trouvable.
Qu'on trouvera partout.
Exactement.
Caroline Forest, et puis après, on va rejoindre Franck Madvon à Londres.
Mais
Caroline.
C'est pour ça que ce débat est si important. C'est pas un débat entre les gens qui pensent qu'il n'y a pas de limite à la liberté d'expression et des gens qui pensent qu'il y a des limites. C'est un débat sur quelles limites. Il y a des limites partout dans tous les pays du monde à la liberté d'expression. Le modèle français, c'est que si vous incitez à la haine envers quelqu'un en raison de sa religion, son origine, son orientation sexuelle, si vous niez des génocides, si vous faites l'apologie du terrorisme, c'est une limite légale à la liberté d'expression. Et personnellement, je m'en réjouis. Et c'est pour ça que je me réjouis que quand des gens incitent à la haine, ils soient condamnés. Par contre, il n'y a pas de tabou en matière de critique des religions. Effectivement, on est dans un pays qui est une vraie démocratie laïque, qui s'est construit même sur ce droit au blasphème pour obtenir sa démocratie. Alors qu'aux États-Unis, les critères sont inversés. C'est-à-dire que d'un côté, vous ne pouvez pas blasphémer parce qu'on vous taxe d'offenseur pour protéger en fait des associations religieuses et des ligues de vertu qui sont extrêmement influentes, puissantes, qui peuvent organiser des campagnes de boycott, de clics, de dénonciation. Mais par contre, l'incitation à la haine contre des journalistes, l'incitation au meurtre, des choses incroyables, des images incroyablement violentes, y compris qui peuvent offenser les victimes ou les familles des victimes lors des meurtres qui ont été montrés, sont complètement libres. Mais le problème, et pourquoi c'est si important d'avoir ce débat, et pourquoi moi j'ai tenu pas simplement, mais beaucoup en mémoire de mes camarades, mais pas seulement, c'est que les critères américains aujourd'hui et anglais sont ceux qui s'imposent à nous sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur toutes les plateformes comme l'iPad et les plateformes d'Apple. Et on les subit tellement que Charlie Hebdo ne pouvait pas avoir d'application sur Apple. Chaque fois qu'il montrait un dessin qui portait sur la religion, il y avait des campagnes de signalement qui faisaient sauter la page de Charlie Hebdo. Par contre, toutes les menaces de mort contre mes camarades, elles y étaient.
Francis Patindé, vous vouliez intervenir?
Juste quand même dire que la une de Charlie n'explique pas l'ampleur de tout ce qui s'est passé ces derniers jours à Niamey. C'est un mouvement qui vient de loin. C'est-à-dire, il ne faut pas oublier que dans ce pays, quand même, qui est 99% de musulmans, et ça fait longtemps que les festivals de mode sont quasiment interdits, ça fait les filles qui mettent du rouge à lèvres ou du vernis sont poursuivies, et que des codes de la famille, qui sont des codes libéraux, ont été rejetés. Donc il y a quand même un mouvement, une lame de fond qui vient de loin et que la une de Charlie sert uniquement de révélateur.
Alors on va rejoindre Franck Madvon, notre correspondant de Radio France et de France Culture à Londres. Bonjour Franck.
Bonjour Frédéric.
Alors on a entendu il y a quelques instants l'interview de Caroline Forest sur Sky. Ça arrive souvent en Angleterre, des interviews aussi cadrées comme a pu vivre Caroline ?
Non, ça n'arrive pas souvent. C'est la première fois que je voyais un tel incident. En fait, bon, il faut dire que la journaliste applique simplement les règles, et les règles à Sky News imposent de ne pas montrer de représentation de Mahomet. Mais Caroline Forest n'aurait sans doute pas été censurée sur la BBC. La BBC, qui se doit, vous le savez, d'être exemplaire du fait de son statut, de son aura, a été très embêtée avec cette histoire des caricatures. D'après des directives internes, il ne peut pas y avoir de représentation du prophète Mahomet à l'antenne, mais ces directives étaient justement en cours de révision au moment des attaques à Paris. On a donc assisté à une certaine confusion. Des dessins ont été montrés dans des reportages, puis un célèbre animateur a dit que c'était une erreur. Il a lu à l'antenne les directives caduques. Finalement, Newsnight, l'émission quotidienne d'actualité de la deuxième chaîne de la BBC, a montré la une de Charlie, mais ça a été fait brièvement. Et le lendemain, le dessin était absent des reportages sur les chaînes du groupe.
Finalement, on en a vu des caricatures de Charlie Hebdo au Royaume-Uni, Franck.
Alors, quelques-unes. En fait, la presse écrite dans l'ensemble n'a publié aucun dessin du prophète Mahomet et très peu de caricatures de Charlie Hebdo. C'était déjà le cas après la parution des caricatures dans le journal danois Jyllands-Posten en 2005. Cela dit, plusieurs journaux anglais, en effet, ont publié la une du dernier Charlie Hebdo. Ça a été le cas dans le Guardian, le Times, le Financial Times, l'Independent. L'image était à chaque fois en petit format. Elle a été publiée clairement, on en parlait auparavant avec l'exemple américain, pour sa valeur informative. Et The Economist est allé un peu plus loin. Le magazine a publié une image assez grande de la une de Charlie. Et fidèle à sa ligne libérale, il milite pour une liberté d'expression presque absolue. C'est ce qu'on peut lire aujourd'hui dans le dernier numéro du magazine. Il y a des exceptions d'après l'hebdomadaire, comme les appels à la violence ou la pornographie infantile. Mais pour le reste, gare à la censure. Et The Economist estime par exemple que Dieudonné n'aurait pas dû être arrêté pour avoir dit qu'il se sentait Charlie Koulibaly.
Bon, vous restez avec nous, Franck. On se retrouve dans un tout petit instant.
Le monde entier s'arrache le nouveau numéro de Charlie Hebdo. Vendredi 16 janvier, les Anglais ou expatriés français ont fait la queue à Londres, notamment au petit matin et parfois pendant de longues heures.
En signe de soutien à la liberté d'opinion, c'est important de venir prendre un exemplaire aujourd'hui. Nous vivons dans une société libre et je pense que c'est autant une question de liberté de pensée que de liberté d'expression. Il s'agit de l'importance d'être tolérant envers les différentes croyances et opinions et être capable de s'y opposer mais de manière appropriée.
Je vois pourquoi les gens ont pu être offensés, mais je pense que vous ne pouvez pas vivre en essayant de n'offenser personne. C'est au cœur de la vie en société.
Franck Madvon, toujours en direct de Londres. Alors, on vient de l'entendre, hein, on a acheté Charlie Hebdo en Angleterre. Mais d'une manière générale, les Britanniques sont assez prudents avec la religion. Hein.
Oui, c'est un sujet très sensible. Alors, c'est lié, bien sûr, au multiculturalisme britannique, même si le pays est un peu sorti de ce modèle aujourd'hui. Il y a donc un grand respect pour les traditions, les religions de chaque communauté. Le port du voile intégral, vous le savez, est très peu débattu ici. On peut voir, par exemple, dans les crèches anglaises, des poupées avec le tchador. Donc, les caricaturistes anglais osent rarement s'en prendre à la religion. C'est dans l'ensemble mal vu et les journaux ne sont pas preneurs. Le dessinateur Martin Rawson, qui travaille notamment pour le Guardian, raconte qu'après les attaques à Paris, il a voulu dessiner Mahomet portant un t-shirt « Not in my name », pas en mon nom, mais il s'est ravisé. Il affirme que personne n'aurait publié cette image.
Alors, le Royaume-Uni, Franck Madvon, c'est une monarchie constitutionnelle avec une reine qui est chef de l'Église, hein, au Royaume-Uni. Et la France est un pays laïque. Alors forcément, il peut y avoir parfois des petites incompréhensions sur certains sujets.
C'est sûr que la laïcité n'existe pas vraiment au Royaume-Uni. On est dans un pays où la reine, donc le chef d'État, est gouverneur suprême de l'Église d'Angleterre. Un pays où des évêques sont élus à la Chambre des Lords, l'équivalent du Sénat. Il n'y a pas de loi de 1905 ici et la laïcité n'a pas du tout la même importance qu'en France. Il y a même à l'école depuis 1944, on le sait peu, un moment obligatoire dit de prière chaque jour. Alors dans les faits, c'est assez peu observé et ça se transforme souvent en débat sur des questions morale, mais ça en dit long sur les différences avec la France. On est là encore dans l'opposition entre le multiculturalisme britannique et l'universalisme républicain français, selon lequel chaque citoyen doit se conformer aux valeurs de la République. Alors ces modèles, c'est vrai, sont aujourd'hui dépassés, ils se sont même récemment inspirés l'un de l'autre, mais cette opposition existe encore et elle explique les approches très différentes dans le traitement d'une actualité comme celle de Charlie Hebdo des deux côtés de la Manche.
Merci Franck Madvon, notre correspondant de Radio France à Londres. Vous vouliez réagir, je crois, Caroline et Scott également.
Oui, c'est très important de comprendre ce contexte. Ce refus d'offenser, soi-disant, ce qu'il considère comme étant d'ailleurs tous les musulmans dans un même sac, comme s'il n'y avait pas de débat entre libéraux et conservateurs au sein des musulmans d'Angleterre ou de France, c'est le revers d'une médaille où l'islam en Angleterre n'est pas une religion, une religion à égalité avec la religion anglicane. Il y a une religion d'État, il y a une religion qui est supérieure aux autres, qui est plus reconnue que les autres. Et donc, en contrepartie, eh bien, on essaie comme ça d'être soi-disant respectueux, mais en fait, on traite de façon différenciée les autres religions. À tel point que je me souviens qu'en 2006, quand nous étions à Charlie Hebdo, déjà sous les menaces, qu'on avait une pression énorme, qu'on savait qu'un jour, on pourrait peut-être se faire tirer comme des lapins à cause du fait qu'on essayait de tenir sur nos valeurs qui étaient, nous, on veut maltraiter tous les symboles de toutes les religions à égalité. Même si, dans Charlie Hebdo, il y a eu peut-être 4 couvertures sur Mahomet et il y en a eu 100 sur le pape et l'Église catholique. Mais quand on leur expliquait ça, des journalistes britanniques nous disaient « Mais enfin écoutez, c'est un interdit dans l'islam de représenter Mahomet, il faut le respecter, c'est leur problème, c'est leurs interdits. » Avec ce « eux » et « nous » qui nous est assez étranger. D'abord, évidemment, il n'y a pas d'interdit en plus dans le Coran, et c'est un manque de culture générale. Ensuite, ce qu'on leur a répondu déjà à l'époque, je me souviens, on avait eu des conversations assez martiennes, on leur a dit « Mais ce que vous ne savez pas, c'est que Jésus est un des prophètes de l'islam. » Selon la tradition islamique. Ça veut dire que s'il ne faut représenter aucun des prophètes de l'islam, vous ne devez pas représenter Jésus non plus. Donc vous devez aller enlever Jésus de vos églises, vous devez aller enlever les symboles dans les églises chrétiennes aussi. Vous voyez bien qu'on ne peut pas vivre en société en appliquant tous les interdits religieux. Et donc c'est pour ça que le multiculturalisme différentialiste est en crise, parce que ça n'est pas possible.
Scott Sayard, vous vouliez intervenir également.
Oui, je pense que la première chose que je voudrais souligner, c'est que, parce que vous avez posé la question sur l'islam et comment on voit l'islam aux États-Unis, oui. Sur la question religieuse, cette société américaine, en tout cas, est beaucoup moins divisée, moins crispée que la société française. Pour ma part, je trouve que c'est justement parce qu'on n'a pas ce débat éternel sur à quel point l'État peut s'impliquer ou s'opposer aux religions. En revanche, de manière plus globale sur le traitement de ces images de Mahomet, je pense qu'il y a une distinction entre la vision de la presse américaine ou anglaise et la vision de la presse française. Et c'est dans le rapport au lecteur. Dans la presse française, les journaux s'érigent comme ceux qui doivent informer le public pour que le public sache comment penser, pour former les valeurs des citoyens et du lectorat. Dans la tradition anglo-saxonne, au contraire, le lecteur est un client. On écrit le journal pour être lu par des clients. Et donc, pourquoi aller offenser un client si ça va faire qu'il ne rachète plus le journal? Le rédacteur en chef du New York Times s'est expliqué justement sur son raisonnement de ne pas publier ça en disant « je m'en fous de Al-Baghdadi et de toutes ces troupes de Daesh. Eux, ils peuvent penser ce qu'ils veulent. » En revanche, c'est la famille musulmane de Brooklyn qui va être offensé, et ça m'intéresse. Le fait de respecter leur, même pas leur croyance, mais leur sentiment tout simplement. C'est ça l'autre élément, c'est que, en fait, aux États-Unis, on n'a pas cette notion, c'est pas une notion de blasphème, en fait, qui gêne aux États-Unis, du tout. C'est plutôt le fait d'offenser les mœurs de gens. Que les gens soient blessés, c'est ça qui intéresse.
Alors on va aller voir aux États-Unis, on a pointé du doigt la presse française pour sa couverture de Charlie Hebdo, et puis bien sûr des prises d'otages, notamment Porte de Vincennes. Aux États-Unis, donc on en parlait, il y a Fox News, dont la couverture a également été commentée.
saviez-vous, Edwige, qu'il y a en France des no-go zones, hein, des zones interdites aux non-musulmans? Alors, ces zones sont même en plein Paris, Belleville, Ménilmontant, Montmartre feraient partie de ces quartiers où règne quasiment la charia. Et bien, c'est ce que Fox News, en tout cas, a expliqué cette semaine aux téléspectateurs américains avec le renfort d'un expert. Il s'appelle Nolan Peterson. Il est présenté comme un bon connaisseur des zones de conflit. Et voilà ce qu'il raconte sur Paris.
Ça choquerait beaucoup d'Américains s'ils savaient qu'à 10 minutes de taxi de la Tour Eiffel, il y a des rues qui ressemblent à Bagdad. Il y a des jeunes qui portent des t-shirts pro-Ben Laden. Vous savez, en banlieue, la plupart des gens sont des islamistes radicaux.
C'est bien connu, Paris comparé à Bagdad. Ça a évidemment beaucoup provoqué de critiques et de moqueries sur les réseaux sociaux.
Ouais, l'expert, hein, entre guillemets, a fini par s'excuser. Mais pas la chaîne, hein, qui, elle, multiplie les erreurs et les amalgames. On a appris, autre exemple sur Fox News, que la ville de Birmingham, en Grande-Bretagne, était peuplée seulement de musulmans et interdite aux Britanniques d'autres confessions. David Cameron, le Premier ministre britannique, n'a pas trop apprécié. Il a dit qu'il s'était étouffé avec son porridge en entendant ça. Et il n'est sans doute pas le seul. Hein. Le slogan de Fox News, c'est « Fair and balance », juste et équilibré. Et on se dit cette semaine qu'il est particulièrement mal choisi.
Mal choisi, et c'est d'autant plus inquiétant que Fox News est la télé la plus regardée par les Américains.
Chaîne d'information la plus regardée aux États-Unis, effectivement.
Voilà, extrait de l'Infomédia sur France Info, samedi dernier, avec Edwige Coupez et Céline Asselot. Donc, David Cameron a failli s'étrangler en mangeant son porridge et il a même qualifié l'expert de Fox de parfait idiot. Comment vous expliquez ce dérapage, Scott Sayer? Vous me dites que ça continue, cette histoire. Elle se nourrit d'elle-même aux États-Unis?
Oui, elle se nourrit d'elle-même, mais en revanche, depuis, Fox News s'est excusé, effectivement.
Alors, Fox News s'est excusé, effectivement, et la mairie de Paris a porté plainte, Anne Hidalgo a porté plainte.
Exactement.
Il s'est passé des choses.
Il s'est passé des choses. Je pense qu'il faut reconnaître aussi que Fox News, c'est du divertissement. C'est pas véritablement une chaîne d'actualité. Enfin,
mais c'est la plus regardée comme chaîne d'info.
Mais en revanche, c'est la chaîne d'info la plus regardée des États-Unis, enfin, ce qui est problématique. Il faut savoir que Fox News, ça s'intéresse uniquement à ses écouteurs, enfin à ceux qui regardent sa chaîne.
Ouais, téléspectateurs, mais
c'est téléspectateurs.
Il y a une dimension divertissement.
Mais absolument, ils invitent tous les gens les plus improbables en tant qu'experts pour tout simplement crier leur colère contre ce qu'ils ont envie de critiquer.
Francis Patindé, oui.
Je pense qu'il n'y a pas que Fox News qui raconte des bobards. Parce que moi, j'ai entendu en France une haute autorité de l'État dire que le Mali est un État musulman. Et ça a été repris par tout le monde, c'est totalement faux. Juridiquement, c'est un État laïque, comme le Sénégal. C'est des États laïques, à forte composante, à forte population musulmane, c'est vrai.
Alors pour revenir, mais le Sénégal a interdit les caricatures.
Le Sénégal a interdit Charlie Hebdo et a interdit Libération. Alors le problème, c'est que Charlie Hebdo n'est pas distribué depuis plusieurs années au Sénégal. Ils ont interdit quelque chose qui n'existait pas.
D'accord.
En revanche, ce que je puis dire, c'est que la version PDF électronique de Charlie Hebdo a circulé aussi bien au Mali, au Niger, qu'au Sénégal. Et j'ai même lu la réaction d'un ministre actuel du gouvernement malien qui m'a dit, je l'ai lu avec beaucoup de plaisir, mais je ne ferai pas de bruit autour de moi. Voilà.
Caroline Forest.
Non, mais il y a un lien avec ce qu'on disait tout à l'heure. C'est très vrai que les journaux anglo-saxons, avant toute chose, pensent à leurs lecteurs comme à des clients qu'il ne faut pas offenser, qu'il faut satisfaire. Mais c'est bien cette logique-là qui conduit à Fox News. C'est bien cette logique-là qui conduit à avoir une chaîne de divertissement à la place d'une chaîne d'information. Et c'est bien pour ça qu'il faut avoir ce débat et y résister. L'autre argument qui était invoqué et qui rejoint les événements dont on parlait comme étant ceux du monde musulman, qui est une généralité que je récuse. On parle de quelques pays à majorité musulmane, et vous avez eu raison de rappeler tout à l'heure que ce sont des pays où il n'y a pas besoin d'avoir une actualité Charlie Hebdo pour que ces pogroms existent. En l'occurrence, au Niger, il y a déjà eu très fréquemment des églises brûlées et persécutées pour tout à fait autre chose. Et même le fait, vous voyez, d'aller brûler une église pour un dessin de Charlie Hebdo montre à quel point on n'est pas du tout dans la compréhension des événements.
Tout est mélangé là.
Évidemment, d'ailleurs, ce dessin, ils ne l'ont pas vu. Et en 2006, c'était déjà pareil. En 2006, je rappelle que les manifestations étaient même plus importantes en Iran, en Syrie, pour d'autres raisons. Parce que j'ai retracé toutes les histoires de blasphème pour un hors-série de Charlie Blasphème en 2006. J'ai été frappée de voir à quel point dans chaque pays, c'est une histoire généralement très politique ou géopolitique. À un moment donné, l'Iran a besoin, par exemple, de damer le pion à l'Arabie Saoudite parce qu'elle vient de gagner contre l'Union soviétique en Afghanistan. Elle veut reprendre la parole au nom de l'islam politique. Paf, on fait une fatwa contre Salman Rushdie. Un autre moment, la Syrie veut détourner les yeux du dossier Hariri. On envoie des gens manifester contre les ambassades danoises. C'est un peu ce qui se passe au Niger aujourd'hui. C'est un peu ce qui se passe au Pakistan, où il y a beaucoup moins de manifestants qu'en 2006. Il y avait eu 150 morts en 2006. Et donc, l'argument de la sécurité, qui est l'autre argument invoqué par la presse pour dire qu'il ne faut pas montrer ses dessins, c'est pour le coup... renoncer au débat d'idées tout court au nom de la mondialisation. C'est-à-dire que si un journal français satirique ne peut pas répondre à un meurtre par un dessin doux, qui en plus est un dessin de pardon, parce qu'à l'autre bout du monde, au Niger, il y a des gens qui de toute façon font déjà des pogroms, qui peuvent en faire un de plus, on ne peut tout simplement plus rien faire.
Le secret des sources, Frédéric Barrère.
Jean-Marie Charon, notre sociologue spécialiste des médias, j'imagine que le traitement de Charlie Hebdo passionne le sociologue que vous êtes, et ce que cela montre aussi que la laïcité en France et la liberté d'expression sont un peu une curiosité pour les observateurs étrangers.
En tout cas, il me semble que ce qui est intéressant de pointer, c'est qu'il y a une ambiguïté, je dirais, entre le monde anglo-saxon et la France, en tout cas, et probablement un certain nombre de pays qui s'inspirent, disons, de la conception du journalisme français, sur la notion même de liberté d'expression. Et je crois que si on veut le comprendre, il faut revenir un petit peu à ce que sont les racines de nos formes de presse. La presse anglo-saxonne, que ce soit la presse britannique ou la presse nord-américaine, naissent, l'une au XVIIe, l'autre plutôt au XVIIIe siècle, dans un contexte d'opposition à l'État, avec la notion de quatrième pouvoir. Opposition à la monarchie foncière, hein, dans le cas de la britannique, et puis opposition à l'État colonial britannique pour les États-Unis en train de se construire. Par contre, la presse française, on pourrait dire contemporaine entre guillemets, naît avec la Révolution française. C'est-à-dire que c'est la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789 et la notion de liberté d'expression, hein, qui, selon cette déclaration, dit « la liberté de communication et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme », mais sans que le lien entre politique et presse, politique et État, soit au cœur, disons, de cette problématique-là. Alors, de ces deux histoires, en fait, on voit qu'il y a des notions qui paraissent extrêmement proches, mais qui sont distinctes selon nos deux traditions. Par exemple, les anglo-saxons vont plutôt parler de liberté de l'information, alors que nous, précisément, nous avons la référence de la liberté d'expression. Les anglo-saxons vont parler de liberté de la presse, alors que nous allons parler de pluralisme de la presse. La conception anglo-saxonne, elle va enfanter un idéal professionnel qui est l'idéal de l'objectivité. Et cet idéal de l'objectivité, donc alors évidemment on en a l'image séparation du fait et du commentaire, mais ça renvoie un peu à ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que c'est aussi prétendre qu'à l'intérieur de chaque média, on va être capable de prendre en compte ou d'intégrer la diversité des points de vue. Alors vous me direz, qu'est-ce qui différencie la conception française ? Eh bien, déjà en France, on part de l'idée que le regard journalistique, le regard du journaliste ou d'une rédaction est toujours situé. C'est-à-dire que sociologiquement, idéologiquement, culturellement, nous ne pouvons pas prétendre justement à cette notion d'une objectivité qui serait en surplomb. Ce qui va se concrétiser précisément par la notion de pluralisme de la presse, c'est-à-dire que autant de titres qu'il y a d'opinions, d'où le cœur finalement de notre système d'organisation de la presse, même si ce n'est pas la réalité de la presse française telle qu'elle est aujourd'hui économiquement, mais c'est le cœur, c'est la presse d'opinion en termes de de représentation de l'organisation de notre système d'information. C'est-à-dire que là où on le disait tout à l'heure, la presse anglo-saxonne prétend qu'elle sert le public et tous les publics, eh bien, dans la conception française, on considère que c'est la pluralité des titres qui sont à la disposition du public, de chacun d'entre nous, qui nous permettent de nous faire une idée, de connaître et de comprendre la situation. Alors, bien sûr, le 19e et le 20e siècle, puis le 21e sera certainement de même, les deux modèles s'échangent, s'interfèrent, mais il est intéressant de voir que perdure encore aujourd'hui ce scepticisme des journalistes français à l'égard de l'objectivité, par exemple.
Jean-Marie Charon, Le Secret des Sources sur France Culture. Comment la presse étrangère a-t-elle parlé des caricatures avec nos invités Caroline Fourest, Scott Sayard, Francis Patindé. Vos commentaires sur notre site franceculture.fr. Le groupe Fats Freddy's Drop, un groupe néo-zélandais de Wellington, extrait de leur album Blackbird. Thibaut Henton, vous avez choisi, vous, un terme dont on parle beaucoup, islamophobie, et vous avez cherché sa généalogie sur le web.
Oui, islamophobie, un terme imparfait sans doute, mais qui a le mérite de fédérer les forces de ceux qui luttent contre le rejet parfois violent dont font l'objet les personnes musulmanes ou supposées telles, c'est-à-dire en fait contre un racisme anti-arabe qui ne dit pas son nom. Depuis les attentats parisiens, on le sait, les actes islamophobes ont explosé. Certains donc refusent ce terme au motif qu'il empêcherait la critique légitime de l'islam, arguant du fait qu'il serait une invention des mollahs iraniens à la fin des années 70, utilisée pour fustiger les femmes refusant de porter le voile. D'autres ont démontré que ça n'était pas le cas, le mot d'ailleurs n'ayant aucun équivalent en persan, et retrouver les occurrences du terme islamophobie dans des ouvrages de chercheurs français du début du XXe. Ce débat, surtout une querelle, vous allez voir, une querelle d'initiés, mais que je trouve intéressant personnellement pour ce qu'il recouvre de divergences idéologiques, peut néanmoins être tranché grâce à l'intelligence artificielle, j'ai nommé Google. Et plus précisément, le Ngram Viewer de Google, un outil qui permet de repérer et comparer les occurrences de plusieurs termes dans le gigantesque corpus d'ouvrages numérisés par Google, le plus grand du monde. Il se trouve que Simplicissimus a fait le boulot sur Sindis. Je lui dois donc la fin de cette chronique et l'en remercie au passage. Simplicissimus a comparé les occurrences des termes français racisme, antisémitisme, xénophobie et islamophobie entre 1880 et les années 2000 grâce au Ngram Viewer, ce qui lui permet de tirer les conclusions provisoires suivantes. L'antisémitisme ouvre la marche à partir de 1880 pour connaître un pic avec l'affaire Dreyfus. Suivent, écoutez bien, quelques apparitions très ponctuelles du terme islamophobie vers 1911-1912, dans un contexte colonial, avant de connaître son vrai démarrage à partir de 2003. Quant au racisme, le dernier arrivé vers 1932-1933, il va s'imposer à partir de 1960. Bon, là-dessus, Nidal est arrivé pour compléter l'analyse de Simplicissimus, toujours en se servant du Ngram Viewer, et observer qu'à partir de la décolonisation, les termes musulmans et arabes montent, alors que celui d'indigène se raréfie, logique. Autre croisement des courbes, celui du terme arabe qui baisse à partir de la fin des années 70, alors que le terme musulman remonte, comme pour le remplacer. Ce qui accréditerait l'hypothèse, conclut Nidal, selon laquelle l'islamophobie n'est en réalité qu'une façade acceptable du racisme anti-arabe, particulièrement stigmatisé depuis les années 80. Alors, pour qui ne serait pas convaincu par l'intelligence artificielle et voudrait creuser cette question d'un point de vue socio-historique, je vous renvoie à la série d'émissions proposées toute cette semaine sur France Culture par l'équipe de la Fabrique de l'Histoire.
Et d'Emmanuel Laurentin.
Et notamment celle de mardi dernier.
Thibaut Henton.
Je voudrais juste répondre à la chronique Forest. De votre chroniqueur, ouais. Parce que c'est tellement quelque chose qui revient dans le débat public et qui, à mon avis, nuit profondément à la clarification des termes de ce débat. Le problème avec le mot islamophobie n'est pas de savoir si quelqu'un l'a prononcé dans sa salle de bain au XIXe siècle, dans un sens ou dans un autre. Il n'est pas, et ce n'est pas en persan qu'il a été prononcé à la fin des années 80, monsieur, en Iran. Il était prononcé en anglais contre des féministes américaines qui venaient de soutenir la révolution islamique et qui, quand elles se sont opposées au port du voile, se sont fait traiter d'islamophobes. Et c'est un exemple qu'on a utilisé, non pas parce que la question n'est pas de savoir son origine, la question est de savoir pourquoi ce terme crée de la confusion. Mmh. Il crée de la confusion parce que dans, sémantiquement, phobie envers l'islam désigne la phobie envers une religion et non pas la phobie envers les musulmans. C'est pour ça que moi, depuis plus de 10 ans, j'essaie de proposer le terme de musulmanophobie ou de racisme anti-musulman pour qu'on arrête de confondre ce qui relève de la critique légitime du dogme religieux et de l'intégrisme, et où on se fait traiter d'islamophobe quand on traite de l'intégrisme. Inciter à la haine contre les musulmans parce qu'ils sont musulmans, c'est du racisme. Et depuis qu'on utilise le mot islamophobie, on ne pointe plus ce racisme, on l'a même banalisé, on l'a même légitimé. Alors qu'en revanche, mes copains Charlie Hebdo, ils sont fait traiter d'islamophobe pendant 10 ans avant de se faire buter. Donc j'essaie simplement de faire en sorte qu'on ait des termes clairs pour comprendre qu'est-ce qui relève du racisme, qu'est-ce qui relève du blasphème, qu'est-ce qui relève de la critique féministe.
À bas les Français, à bas Charlie, à bas Charlie.
Au cri de Dieu est grand, ils brandissent le Coran et piétinent la Bible. Ces manifestants viennent de piller cette église de Niamey. D'autres ont été incendiés. Ils sont venus crier leur colère face à la caricature de Mahomet en une du dernier numéro de Charlie Hebdo.
Ils ont offensé notre prophète. Et ça, c'est insupportable.
Dans les rues de Grozny, contre la une de Charlie Hebdo, on défile à l'appel du président. Dans la foule des fidèles, tous condamnent les caricatures de Mahomet. Et chacun y va de son commentaire sur l'attentat contre l'hebdomadaire français.
S'ils ont reçu une punition, c'est qu'elle est méritée. Et si Dieu veut, chacun sera puni pour ses mauvais actes.
Nous n'insultons personne lorsque nous défendons nos idées. Nous respectons toutes celles et tous ceux à qui nos idées s'adressent. Et s'il y a un hommage que nous pouvons rendre à Charlie Hebdo, c'est de faire en sorte que la liberté de la presse, la liberté d'expression, mais aussi la laïcité soit partout défendue, promue.
On vient d'entendre plusieurs extraits de manifestations, notamment au Niger et en Tchétchénie, des reportages diffusés sur iTélé et France 24. Et on a également entendu François Hollande qui s'exprimait lundi dernier à l'occasion des 70 ans de l'AFP. Francis Patindé, est-ce qu'il faudrait, selon vous, mettre entre parenthèses ces caricatures de Mahomet pour apaiser le climat, pour rendre le monde un peu plus calme? Est-ce qu'il faut arrêter de caricaturer Mahomet pendant quelques temps pour apaiser un peu les passions et les esprits, Francis Patindé?
De mon point de vue, non. Mais je peux comprendre que des dirigeants de pays que je qualifie de la majorité et des agendas politiques intérieurs, c'est des pays fragiles. Vous savez, il y a Boko Haram et qui l'autre jour a massacré un village de 2000 personnes d'un coup. Donc, c'est des pays qui sont tellement fragiles au plan sécuritaire, au plan des institutions, que bon, tout ça risque de voler au Niger. Je parle du Niger, du Mali, du Nigeria, du Grand. C'est quand même un pays 3 fois plus peuplé que la France. Et ce pays, il faut faire attention. Si ça pète là-bas, ça veut dire que l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest va à volo. Donc je peux comprendre que pour des préoccupations purement internes, que les dirigeants fassent cela. Mais enfin, un journaliste, les libres penseurs, ils ont le droit. Il n'y a pas que l'islam. Il y a Jésus, il y a tout le monde, il y a les rabbins et tout. Je vois pas, il n'y a pas de limite à cela. Et en plus, Charlie Hebdo, que moi je lis depuis bientôt 40 ans, que j'ai lu dans la formule Hariki, c'est pas des méchants. Les gens n'ont rien compris, en fait. Ils n'ont rien compris, ils se sont attaqués à... C'est pas là la cible. La cible est ailleurs.
Caroline Forest, est-ce qu'il faut mettre entre parenthèses les caricatures le temps que le climat s'apaise.
Mais ils trouveront autre chose, c'est ça que vous ne comprenez pas. Charlie Hebdo n'est pas publié au Niger. C'est-à-dire que s'il faut que tout le monde devienne religieux, intégriste, pour que les intégristes arrêtent d'être intégristes, ça n'arrivera pas, ou alors ce sera pire que le monde actuel. Mais je veux dire qu'il faut remettre la responsabilité dans le bon ordre. Les responsables, ce sont ceux qui tuent pour un dessin qu'ils n'ont même pas vu.
Scott Sayard.
Je pense que, de toute manière, l'idée qu'on entend, c'est que si on décide de ne pas publier parce que ça va offenser quelqu'un, que, en gros, c'est une pente glissante qui nous mène vers un intégrisme que tout le monde aura à prendre au fond de soi-même.
Ne pas publier ou mettre entre parenthèses un certain temps.
Tout à fait, tout à fait. Mais cette notion que c'est absolument critique qu'on publie là tout de suite, la notion derrière, c'est qu'on est sur une pente glissante si on décide maintenant de ne pas le faire. Parce que ça peut nous amener à devenir tous intégristes et à se soumettre à des règles qui ne sont pas les nôtres. Pour ma part, je rejette cette notion. Je ne vois pas pourquoi, pendant un temps, ne pas publier quelque chose qui va avoir des effets, même si les raisons pour ces effets sont déplorables. Et on peut considérer, de notre point de vue parisien, comme absurde. Je ne vois pas l'intérêt de pousser, si c'est juste pour éviter de rentrer sur cette pente glissante. Après, il y a cette notion de responsabilité. Je ne pense pas que... on parle beaucoup de liberté d'expression, et je suis pour... je suis américain, j'ai une vision américaine de la liberté d'expression. Je suis pour qu'on puisse dire tout ce qu'on veut. J'ai une vision différente de celle de la plupart des Français à cet égard. En revanche, je trouve que avec cette liberté, ce serait bien qu'on se pose la question de la responsabilité. Je pense que Charlie Hebdo ou qui que ce soit devrait avoir le droit de dire et de publier ce qu'ils ont envie. Mais après, la notion de l'intérêt de cette parole et des effets qu'on cherche à avoir à travers cette parole doivent être posés, comme question.
Est-ce qu'on peut revenir au contexte de cette couverture?
Très rapidement, Caroline Forest.
Vous croyez qu'ils n'ont pas été responsables, mes camarades? Vous croyez qu'ils ne sont pas posé la question de la responsabilité de savoir, alors qu'ils n'avaient même pas encore enterré le corps de leur collègue, s'ils devaient faire une couverture sur le pape cette semaine-là? Vous pensez que l'actualité, c'était le pape cette semaine-là? Moi, j'ai entendu des gens parler de provocation gratuite à propos d'un dessin qui fait pleurer Mahomet sur le corps de mes collègues et qui dit « Je suis Charlie, tout est pardonné ». Mais qu'est-ce qu'il pouvait faire de plus doux, de plus tendre? Quelle main tendue il pouvait faire de plus que ça? En tout cas, je peux vous dire qu'ils ne l'ont pas fait de façon irresponsable. Ils l'ont fait en sachant ce qu'ils faisaient. Et c'est leur mérite.
Monsieur le Président, je vous fais part de ma grande indignation face aux événements, comprenez ma position. Je suis français, grandi dans les quartiers populaires. Mes grands-parents ont défendu la France pendant la guerre.
Tout comportement mettant en cause les valeurs de la République.
Toutes les fractures, les tensions qui couvent depuis trop longtemps.
Ou l'autorité du maître ou du professeur.
La relégation périurbaine.
Fera l'objet d'un signalement au chef d'établissement.
Mes parents, eux aussi, l'ont reconstruite cette république. Rappelez-vous ces ouvriers qu'on a fait venir d'Afrique. Et leurs enfants ignorés par le droit du sol. Citoyens de seconde zone, de la naissance à l'école.
Les ghettos.
Chaque fois qu'il y aura une mise en cause de la dignité, de l'égalité.
Un apartheid.
Il y aura une réaction.
Territoriale, sociale, ethnique.
Et c'est en faisant en sorte que l'autorité soit respectée, celle du maître, que nous pourrons aussi veiller à ce que les valeurs de la République.
J'accuse 30 ans de racisme et d'ignorance, la répression sans prévention en France. J'accuse votre politique, vos méthodes archaïques, la centralisation, la défense unique de la loi du fric. Au lieu de rassembler, car tous français, vous n'avez fait que diviser, laissant l'extrême droite avancer.
La misère sociale.
Soit partagé et renforcé.
Auxquels s'additionnent les discriminations quotidiennes, parce que l'on n'a pas le bon nom de famille.
Qu'il y aura une pression qui viendra, un mot qui sera prononcé.
La bonne couleur de peau.
Qui met en cause une valeur fondamentale.
Ou bien parce que l'on est une femme.
Il y aura une réaction.
Monsieur le Président, vous remerciant de votre attention, veuillez agréer mes sentiments les plus distingués. Adieu.
Voilà le clin d'œil de Yacine Bouzard. Merci à tous. L'émission touche à sa fin. Merci à nos invités. Caroline Forest, éditorialiste à France Culture, spécialiste des intégrismes. Et vous avez été également journaliste à Charlie Hebdo. Caroline Forest, on vous retrouve lundi. C'est après-demain, dans Le Monde Selon, à 7h18, dans le matin de France Culture. Vous savez déjà de quoi vous allez nous parler lundi ?
Non.
Non, pas encore. Bon, on n'y est pas tout à fait lundi. Merci également à Scott Sayard, journaliste américain, notamment pour The Atlantic, et Francis Patindet, journaliste et maître de conférences à Sciences Po Paris. Nos deux regards extérieurs qui nous ont accompagnés aujourd'hui, Jean-Marie Charron, sociologue, spécialiste des médias, et Thibaut Henton pour les images et le web dans les coulisses de l'émission. Les indispensables Vincent Abouchard, Mathias Mégy pour la réalisation, la préparation et le site franceculture.fr avec aux manettes cette semaine Jacques Hubert, le clin d'œil, on l'a entendu, c'était Yacine Bouzard. Merci à Franck Madvon, notre correspondant à Londres. Dans un instant, le journal de Mathieu Laurent, suivi de répliques, nazisme, crime et philosophie. Alain Finkielkraut reçoit Johan Chapoutot et Frédéric Rouvillois. C'était le secret des sources sur France Culture, à retrouver sur franceculture.fr. Rembobinage, le journal, réplique, bonne journée sur France Culture.
Au-delà du débat de est-ce que Charlie Hebdo a bon goût, est-ce que Charlie Hebdo se taire quand on lui tire dessus, simplement d'un point de vue journalistique, ne pas montrer cette une, c'est anti-journalistique. C'est le cœur de l'information, cette une est au cœur de l'information mondiale.
Je pense que, de toute manière, l'idée qu'on entend, c'est que si on décide de ne pas publier parce que ça va offenser quelqu'un, que, en gros, c'est une pente glissante qui nous mène vers un intégrisme que tout le monde aura à prendre au fond de soi-même.